Le palais merveilleux. Notre héroïne passa presque tout ce premier jour à voir le logis. Sur le soir, elle s'alla promener dans les cours et dans les jardins, d'où elle considéra quelque temps les diverses phases de l'édifice, sa majesté, ses enrichissements et ses grâces, la proportion, le bel ordre et la correspondance de ses parties. Je vous en ferai la description si j'étais plus savant dans l'architecture que je le suis. À ce défaut, vous aurez recours au palais d'Apollidone ou bien à celui d'Armide. Ce m'est tout un. Quant au jardin, voyez ceux de Phalérine. Ils vous pourront donner quelque idée des lieux que j'ai à décrire. Psyché ne se promenait au commencement que dans les jardins, n'osant se fier au bois. Bien qu'on l'assurât qu'elle n'y rencontrerait que des dryades et pas un seul faune. Mais avec le temps, elle devint plus hardie. Un jour que la beauté d'un ruisseau l'avait attirée, elle se laissa conduire insensiblement au repli de l'onde. Après bien des détours, elle parvint à sa source. C'était une grotte assez spacieuse, où, dans un bassin taillé par les seules mains de la nature, coulait le long d'un rocher une eau argentée et qui, par son bruit, invitait à un doux sommeil. Psyché ne se put tenir d'entrer dans la grotte. Comme elle en visitait les recoins, la clarté, qui allait toujours en diminuant, lui faillit enfin tout à coup. Il y avait certainement de quoi avoir peur, mais elle n'en eut pas le loisir. Une voix qui lui était familière l'assura d'abord. C'était celle de son époux. Il s'approcha d'elle, la fit asseoir sur un siège couvert de mousse, se mit à ses pieds et, après lui avoir baisé la main, il lui dit en soupirant « Faut-il que je doive à la beauté d'un ruisseau une si agréable rencontre ? Pourquoi n'est-ce pas à l'amour ? Ah, Psyché, Psyché, je vois bien que cette passion et vos jeunes ans n'ont encore guère de commerce ensemble. Si vous aimiez, vous chercheriez le silence et la solitude avec plus de soin que vous ne les évitez maintenant. Vous chercheriez les antres sauvages et auriez bientôt appris que de tous les lieux où on sacrifie au Dieu des amants, ceux qui lui plaisent le plus, ce sont ceux où on peut lui sacrifier en secret. Mais vous n'aimez point. Mais que voulez-vous que j'aime ? Répondit Psyché. Un mari, dit-il, que vous figurez à votre mode, et à qui vous donnerez telle sorte de beauté qu'il vous plaira. Oui, mais repartit la belle, je ne rencontrerai peut-être pas avec la nature, car il y a bien de la fantaisie en cela. J'ai ouï dire que non seulement chaque nation avait son goût, mais chaque personne aussi. Une amazone se proposerait un mari dont les grâces feraient trembler, un mari ressemblant à Mars. Moi, je m'en proposerais un semblable à l'amour. Une personne mélancolique ne manquerait-il pas de donner à ce mari un air sérieux ? Moi, qui suis gai, je lui en donnerais un enjoué. Enfin, je croirais vous faire plaisir en vous attribuant une beauté délicate et peut-être vous ferai-je tort. Quoi que ce soit, dit le mari, vous n'avez pas attendu jusqu'à présent à vous forger une image de votre époux. Je vous prie de me dire quelle elle est. Vous avez dans mon esprit, poursuivit la belle, une mine aussi douce que trompeuse. Tous les traits fins, l'œil riant et fort éveillé, de l'embonpoint et de la jeunesse, on ne saurait se tromper à ces deux points-là. Mais je ne sais si vous êtes éthiopien ou grec, et quand je me suis fait une idée de vous la plus belle qu'il m'est possible, votre qualité de monstre vient tout gâter. C'est pourquoi le plus court et le meilleur, selon mon avis, c'est de permettre que je vous voie. Son mari lui serra la main et lui dit avec beaucoup de douceur « C'est une chose qui ne se peut, pour des raisons que je ne saurais même vous dire. » Mais je le serai donc, vous aimez, reprit-elle assez brusquement. Et elle en eut regret, d'autant plus qu'elle avait dit cela contre sa pensée. Mais quoi, la faute était faite. En vain, elle voulut la réparer par quelques caresses. Son mari avait le cœur si serré qu'il fut un temps assez long sans pouvoir parler. Il rompit à la fin son silence par un soupir, comme Chiché n'eût pas plus tôt entendu qu'elle y répondit, bien qu'avec quelque sorte de défiance. Les paroles de l'oracle lui revenaient en l'esprit. Le moyen de les accorder avec cette douceur passionnée que son époux lui faisait paraître. Celui qui empoisonnait, qui brûlait, qui faisait ses jeux des tortures, soupirait pour un simple mot. Cela semblait tout à fait étrange à notre héroïne. Et à dire vrai, tant de tendresse sur un monstre était une chose assez nouvelle. Des soupirs, il en vint aux pleurs, et des pleurs aux plaintes. Tout cela plut extrêmement à la belle. Mais comme il disait des choses trop pitoyables, elle ne put souffrir qu'il continuât, et lui mit premièrement la main sur la bouche, puis la bouche même. Et par un baiser, mieux qu'elle ne l'aurait fait avec toutes les paroles du monde, elle l'assura que tout invisible et tout monstre qu'il voulait être, elle ne laissait pas de l'aimer. Ainsi se passa l'aventure de la grotte, où il leur en arriva beaucoup de pareils. Notre héroïne ne perdit pas la mémoire de ce que lui avait dit son époux. Ses rêveries la menaient souvent jusqu'aux lieux les plus écartés de ce beau séjour, et faisaient si bien que la nuit la surprenait devant qu'elle pût gagner le logis. Aussitôt son mari la venait trouver sur un char, environné de ténèbres, et plaçant à côté de lui notre jeune épouse, il se promenait au bruit des fontaines. Je laisse à penser si les protestations, les serments, les entretiens pleins de passion se renouvelaient, et de fois à autre aussi les baisers. Non point de mari à femme, il n'y a rien de plus insipide, mais de maîtresse à amant, et, pour ainsi dire, de gens qui n'en seraient encore qu'à l'espérance. Quelque chose manquait pourtant à la satisfaction de Psyché. Vous voyez bien que j'entends parler de la fantaisie de son mari, c'est-à-dire de cette opiniâtreté à demeurer invisible. Toute la postérité s'en est étonnée. Pourquoi une résolution si extravagante? Il se peut trouver des personnes laides qui affectent de se montrer. La rencontre n'en est pas rare. Mais que ceux qui sont beaux se cachent, c'est un prodige dans la nature. Et peut-être n'y avait-il que cela de monstrueux à la personne de notre époux. Après en avoir cherché la raison, voici ce que j'ai trouvé dans un manuscrit qui est venu depuis peu à ma connaissance. Nos amants s'entretenaient à leur ordinaire, et la jeune épouse, qui ne songeait qu'au moyen de voir son mari, ne perdait pas une seule occasion de lui en parler. De discours en autre, ils vinrent aux merveilles de ce séjour. Après que la belle eut fait une longue énumération des plaisirs qu'elle y rencontrait, disait-elle de tous côtés, il se trouva qu'à son compte, le principal point y manquait. Son mari ne voyait que trop où elle avait dessein d'en venir. Mais comme entre amants, les contestations sont quelquefois bonnes à plus d'une chose, il voulut qu'elle s'expliquât et lui demanda ce que pouvait être que ce point d'une si grande importance, vu qu'il avait donné ordre au fait que rien ne manquât. « Mais je n'ai que faire des faits pour cela, repartit la belle. Voulez-vous me rendre tout à fait heureuse? Oh, je vous enseignerai un moyen bien court. Il ne faut, mais je vous l'ai dit tant de fois inutilement, que je n'oserais plus vous le dire. Non, non, reprit le mari, n'appréhendez pas de m'être importune. Je veux bien que vous me traitiez comme ont fait les dieux. Ils prennent plaisir à se faire demander 100 fois une même chose. Qui vous a dit que je ne suis pas de leur naturel? Notre héroïne, encouragée par ces paroles, lui répartit. Puisque vous me le permettez, je vous dirai franchement que tous vos palais, tous vos meubles, tous vos jardins ne seraient que récompensés d'un moment de votre présence. Et vous voulez que j'en sois tout à fait privé, car je ne puis appeler présence un bien où les yeux n'ont aucune part. Quoi, je ne suis pas maintenant de corps auprès de vous, reprit le mari, et vous ne me touchez pas? Mais je vous touche, repartit-elle, et sans bien que vous avez une bouche, un nez, des yeux, un visage. Tout cela proportionné comme il faut, et selon que je m'imagine, assorti de traits qui n'ont pas leurs pareils au monde, mais jusqu'à ce que j'en sois assuré, cette présence de corps dont vous me parlez est présence d'esprit pour moi. Présence d'esprit, repartit l'époux. Psyché s'empêcha de continuer, elle lui dit en interrompant. Apprenez-moi du moins les raisons qui vous rendent si opiniâtre. Oh, je ne vous les dirai pas toutes, reparut l'époux, mais afin de vous contenter en quelque façon, examinez la chose en vous-même, vous serez contrainte de m'avouer qu'il est à propos pour l'un et pour l'autre de demeurer en l'état où nous nous trouvons. Premièrement, tenez-vous certaine que du moment que vous n'aurez plus rien à souhaiter, vous vous ennuierez. Et comment ne vous ennuierez-vous pas? Les dieux s'ennuient bien. Ils sont contraints de se faire de temps en temps des sujets de désir et d'inquiétude, tant il est vrai que l'entière satisfaction et les dégoûts se tiennent la main. Pour ce qui me touche, je prends un plaisir extrême à vous voir en peine. D'autant plus que votre imagination ne se forge guère de monstres, j'entends d'images de ma personne qui ne soient très agréables. Et pour vous dire une raison plus particulière, vous ne doutez pas qu'il y ait quelque chose en moi de surnaturel? Nécessairement, je suis Dieu ou je suis démon, ou bien enchanteur. Si vous trouvez que je sois démon, vous me haïrez. Et si je suis Dieu, vous cesserez de m'aimer, ou du moins, vous ne m'aimerez plus avec tant d'ardeur. Car il s'en faut bien qu'on aime les dieux aussi violemment que les hommes. Quant au troisième, il y a des enchanteurs agréables. Je puis être de ceux-là, et possible suis-je tous les trois ensemble. Ainsi le meilleur pour vous est l'incertitude, et qu'après la possession vous ayez toujours de quoi désirer. C'est un secret dont on ne s'était pas encore avisé. Demeurons-en là, si vous m'en croyez. Je sais ce que c'est la bourre, et le doit savoir. Psyché se paya de ses raisons, ou si elle ne s'en paya, elle fit semblant de s'en payer. Cependant, elle inventait 1000 jeux pour se divertir. Les parterres étaient dépouillés, l'herbe des prairies foulée. Ce n'était que danse et combats de nymphes qui se séparaient souvent en deux troupes et, distingués par les écharpes de fleurs comme par des ordres de chevalerie, se jetaient ensuite tout ce que Flore leur présentait. Puis le parti victorieux dansait un trophée et dansait autour, couronné d'œillets et de roses. D'autres fois, Psyché se divertissait à entendre un défi de rossignol, ou à voir un combat naval de cygnes, des tournois et des joutes de poissons. Son plus grand plaisir était de présenter un appât à ses animaux, et après les avoir pris, de les rendre à leur élément. Les nymphes suivaient dans cela son exemple. Il y avait tous les soirs gageure qui en prendrait davantage. La plus heureuse en sa pêche obtenait quelques faveurs de notre héroïne. La plus malheureuse était condamnée à quelques peines, comme de faire un bouquet ou une guirlande à chacune de ses compagnes. et ces spectacles se terminaient par le coucher du soleil. Il était témoin de la fête, paré d'un magnifique atour et caché le reste du jour. Sur le soir, il montrait sa tête. Mais comment la montrait-il? Environné d'un diadème d'or et de pourpre, et avec toute la magnificence et la pompe qu'un roi des astres peut étaler. Le logis fournissait pareillement ses plaisirs, qui n'étaient tantôt que de simples jeux et tantôt des divertissements plus solides. Le psyché commençait à ne plus agir en enfant. On lui racontait les amours des dieux et les changements de forme qu'a causé cette passion, source de bien et de mal. Le savoir des fées avait mis en tapisserie les malheurs de Troie, bien qu'ils ne fussent pas encore arrivés. Et Psyché se les faisait expliquer. Mais voici un merveilleux effet de l'enchantement. Les hommes, comme vous savez, ignoraient alors ce bel art que nous appelons comédie. Il n'était pas même encore dans son enfance. Cependant, on le fit voir à la belle dans sa plus grande perfection, et telle que Ménandre et Sophocle nous l'ont laissé. Jugez si on y épargnait les machines, les musiques, les beaux habits, les ballets des anciens et des nôtres. Psyché ne se contenta pas de la fable. Il fallut y joindre l'histoire et l'entretenir des diverses façons d'aimer qui sont en usage chez chaque peuple. Quelles sont les beautés des sites, quelles celles des Indiens, et tout ce qui est connu, contenu sur ce point dans les archives de l'univers, soit pour le passé, soit pour l'avenir, à l'exception de son aventure qu'on lui cacha, quelques prières qu'elle fit aux nymphes de la lui apprendre. Enfin, sans qu'elle bougeât de son palais, toutes les affaires qu'amour a dans les quatre parties du monde lui passèrent devant les yeux. Que vous dirais-je davantage? On lui enseigna jusqu'au secret de la poésie. Cette corruptrice des cœurs acheva de gâter celui de notre héroïne et la fit tomber dans un mal que les médecins appellent glycomorie, qui lui pervertit tous les sens et la ravit comme à elle-même. Elle parlait étant seule, ainsi qu'en usent les amants dans les vers et dans les romans. Aller rêver au bord des fontaines, se plaindre aux rochers, consulter les antres sauvages, c'était où son mari l'attendait. Il n'y eut chose dans la nature qu'elle n'entretint de sa passion. Hélas, disait-elle aux arbres, je ne saurais graver sur votre écorce que mon nom seul, car je ne sais pas celui de la personne que j'aime. Après les arbres, elle s'adressait aux ruisseaux. Ceux-ci étaient ses principaux confidents à cause de l'aventure que je vous ai dite. S'imaginant que leur rencontre lui était heureuse, il n'y en eut pas un auquel elle ne s'arrêta jusqu'à espérer qu'elle l'attraperait sur leur bord, son mari dormant, et qu'après il serait inutile au monstre de se cacher. Dans cette pensée, elle leur disait à peu près les choses que je vais vous dire, et les leur disait en vers, aussi bien que moi. Ruisseau, enseignez-moi l'objet de mon amour. Guidez vers lui mes pas, vous dont l'onde est si pure. Ne dormirait-il point dans ce sombre séjour, payant un doux tribut à votre doux murmure? En vain, pour le savoir, Psyché vous fait la cour. En vain, elle vous vient conter son aventure. Vous n'osez déceler cet ennemi du jour qui fit en quelque coin du tourment que j'endure. Il s'envole avec l'ombre et me laisse appeler. Hélas, j'use au hasard de ce mot d'envoler, car je ne sais pas même encore s'il a des ailes. J'ai beau suivre vos bords et marcher en tous lieux, les antres seulement m'en disent des nouvelles, et ce que je chéris n'est pas fait pour mes yeux. Ne doutez point que ces peines dont parlait Psyché n'eussent leur plaisir. Elle les passait souvent sans s'apercevoir de la durée, je ne dirais pas des heures, mais des soleils. De sorte que l'on peut dire que ce qui manquait à sa joie faisait une partie des douceurs qu'elle goûtait en aimant. Mille fois heureuse si elle eût suivi les conseils de son époux et qu'elle eût compris l'avantage et le bien que c'est de ne pas atteindre la suprême félicité. Car, sitôt que l'on en est là, il est force que l'on descende, la fortune n'étant pas d'humeur à laisser reposer sa roue. Elle est femme, et Psyché l'était aussi, c'est-à-dire incapable de demeurer en un même état. Notre héroïne le fit bien voir par la suite. Son mari, qui sentait approcher le moment fatal, ne la venait plus visiter avec sa gaieté ordinaire. Cela fit craindre à la jeune épouse quelques refroidissements. Pour s'en éclaircir, comme nous voulons tout savoir, jusqu'aux choses qui nous déplaisent, elle dit à son époux: d'où vient la tristesse que je remarque depuis quelque temps dans tous vos discours? Rien ne vous manque et vous soupirez. Que feriez-vous donc si vous étiez à ma place? N'est-ce point que vous commencez à vous dégoûter? En vérité, je le crains. Non pas que je sois devenue moins belle, mais, comme vous dites vous-même, je suis plus vôtre que je n'étais. Serait-il possible, après tant de cajoleries et de serments, que j'eusse perdu votre amour? Bon, si ce malheur m'est arrivé, je ne veux plus vivre. À peine eut-elle achevé ces paroles, que le monstre fit un soupir, soit qu'il fût touché des choses qu'elle avait dites, soit qu'il eût un pressentiment de ce qui devait arriver. Il se mit ensuite à pleurer, mais fort tendrement. Puis, cédant à la douleur, il se laissa mollement aller sur le sein de sa jeune épouse, qui, de son côté, pour mêler ses larmes avec celles de son mari, pencha doucement la tête, de sorte que leurs bouches se rencontrèrent. Et nos amants, n'ayant pas le courage de les séparer, demeurèrent longtemps sans rien dire. Toutes ces circonstances sont déduites au long dans le manuscrit dont je vous ai parlé tantôt. Il faut que je vous l'avoue, je ne lis jamais cet endroit que je ne me sente ému. En effet, dit alors Gélaste, qui n'aurait pitié de ces pauvres gens? Perdre la parole, il faut croire que leurs bouches s'étaient bien malheureusement rencontrées. Cela me semble tout à fait digne de compassion. Vous en rirez tant qu'il vous plaira, reprit Folliphile. Mais pour moi, je plains deux amants de qui les caresses sont mêlées de crainte et d'inquiétude. Si dans une ville assiégée ou dans un vaisseau menacé de la tempête, deux personnes s'embrassaient ainsi, les tiendriez-vous heureuses? Oui, vraiment, repartit Gélaste, car en tout ce que vous dites là, le péril est encore bien éloigné. Mais, vu l'intérêt que vous prenez à la satisfaction de ces deux époux et la pitié que vous avez d'eux, vous ne vous hâtez guère de les tirer de ce misérable état où vous les avez laissés. Ils mourront si vous ne leur rendez la parole. Rendons-la leur donc, continua Polyphile. Au sortir de cette extase, la première chose que fit Psyché, ce fut de passer la main sur les yeux de son époux, afin de sentir s'ils étaient humides, car elle craignait que ce ne fût feinte. Les ayant trouvés en bon état, et comme elle les demandait, c'est-à-dire mouillés de larmes, elle condamna ses soupçons et fit scrupule de démentir un témoignage de passion beaucoup plus certain que toutes les assurances de bouche, serments et autres. Cela lui fit attribuer le chagrin de son mari à quelques défauts de tempérament ou bien à des choses qui ne la regardaient point. Quant à elle, après tant de preuves, la puissance de ses appas lui sembla trop bien établie et le monstre trop amoureux pour faire qu'elle craignît aucun changement. Lui, au contraire, aurait souhaité qu'elle appréhendât, car c'était l'unique moyen de la rendre sage et de mettre un frein à sa curiosité. Il lui dit beaucoup de choses sur ce sujet, moitié sérieusement et moitié avec raillerie, à quoi Psyché repartait fort bien, et le mari déclamait toujours contre les femmes trop curieuses. « Que vous êtes étrange avec votre curiosité, » lui dit son épouse. « Êtes-vous désobligé que de souhaiter de vous voir, puisque vous dites vous-même que vous êtes si agréable ?»« Eh bien, quand j'aurai tâche de me satisfaire, qu'en sera-t-il »« Je vous quitterai, » dit le mari. « Et moi je vous retiendrai, » repartit la belle. « Mais si j'ai juré par le Styx, » continua son époux. « Qui est-il ce Styx ?» dit notre héroïne. « Je vous demanderai volontiers s'il est plus puissant que ce qu'on appelle beauté. Quand il le serait, pourriez-vous souffrir que j'errasse par l'univers et que Psyché se plaignît d'être abandonnée de son mari sur un prétexte de curiosité et pour ne pas manquer de parole au Styx ? Oh, je ne vous puis croire si déraisonnable. Et le scandale, et la honte. Il paraît bien que vous ne me connaissez pas, repartit l'époux, de m'alléguer le scandale et la honte. Ce sont choses dont je me mets guère en peine. Quant à vos plaintes, qui vous écoutera, et que direz-vous ? Je voudrais bien que quelqu'un des dieux fût si téméraire que de vous accorder sa protection. Voyez-vous, Psyché, ceci n'est point une raillerie. Je vous aime autant que l'on peut aimer, mais ne comptez pas plus amis dès le moment que vous m'aurez vu. Je sais bien que vous n'en parlez que par raillerie, et non pas avec un véritable dessein de me causer un tel déplaisir. Cependant, j'ai sujet de craindre qu'on ne vous conseille de l'entreprendre. Oh, ce ne seront pas les nymphes, elles n'ont garde de me trahir ni de vous rendre ce mauvais office. Leur qualité de demi-déesse les empêche d'être envieuses. Puis, je les tiens toutes par des engagements trop particuliers. Défiez-vous du dehors. Il y a déjà deux personnes au pied de ce mont qui vous viennent rendre visite. Vous et moi, nous nous passerions fort bien de ce témoignage de bienveillance. Je les chasserai, car elles me choquent, si le destin, qui est maître de toutes choses, me le permettait. Je ne vous nommerai point ces personnes. Elles vous appellent de tous côtés. S'il arrive que le destin porte leur voix jusqu'à vous, ce que je ne saurais empêcher, ne descendez pas, laissez-les crier et qu'elles viennent comme elles pourront. » Là-dessus, il la quitta, sans vouloir lui dire quelle personne c'était, quoique la belle promit avec grand serment de ne pas aller à trouver et encore moins de les croire. Voilà, Psyché, fort embarrassée, comme vous voyez. Deux curiosités à la fois, y a-t-il femme qui résista ? Elle épuisa sur ce dernier point tout ce qu'elle avait de lumière et de conjecture. « Cette visite m'étonne, » disait-elle en se promenant un peu loin des nymphes. « Ne serait-ce point mes parents ?»« Hélas, mon mari est bien cruel d'envier à deux personnes qui n'en peuvent plus. » La satisfaction de me voir. Si les bonnes gens vivent encore, ils ne sauraient être fort éloignés du dernier moment de leur course. Quelle consolation pour eux que d'apprendre combien je suis pourvu richement, et si, avant que d'entrer dans la tombe, ils voyaient au moins un échantillon des douceurs et des avantages dont je jouis, afin d'en emporter quelques souvenirs chez les morts. Mais si ce sont eux, pourquoi mon mari se met-il en peine ? Ils ne m'ont jamais inspiré que l'obéissance. Vous verrez que ce sont mes sœurs. Ah, il ne doit pas non plus les appréhender. Les pauvres femmes n'ont d'autre soin que de contenter leur mari. Oh Dieu, je serais ravi de les mener en tous les endroits de ce beau séjour, et surtout de leur faire voir la comédie et ma garde-robe. Elles doivent avoir des enfants, si la mort ne les a privées depuis mon départ de ces deux fruits de leur mariage. Que serait-ce de leur reporter 1 000 menus affiquets et joyaux de prix dont je ne tiens compte et que les nymphes et moi nous foulons aux pieds tant ce logis en est plein? Ainsi raisonnait Psyché, sans qu'il fût possible d'asseoir aucun jugement certain sur ces deux personnes. Il y avait même des intervalles où elle croyait que ce pouvaient être quelques-uns de ses amants. Mais cette pensée, elle disait quelque peu plus bas: Oh, ne va point en prendre l'alarme, charmant époux, laisse-les venir. Je te les sacrifierai de la plus cruelle manière dont, pauvre femme, se soit jamais avisée, tu en auras le plaisir, fussent-ils enfants de roi. Ces réflexions furent interrompues par le zéphyr, qu'elle vit venir à grands pas et fort échauffée. Il s'approcha d'elle avec le respect ordinaire, lui dit que ses sœurs étaient au pied de cette montagne, qu'elles avaient plusieurs fois traversé le petit bois sans qu'il eût été possible de passer outre, les dragons les arrêtant avec grand frayeur. Qu'au reste, c'était pitié que de les jouir appelés, qu'elles n'avaient tantôt plus de voix et que les échos n'étaient occupés qu'à répéter le nom de Psyché. Le pauvre Zéphyr pensait bien faire. Son maître, qui avait défendu aux nymphes de donner ce funeste avis, ne s'était pas souvenu de lui en parler. Psyché le remercia agréablement et lui dit qu'on aurait peut-être besoin de son ministère. Il ne fut pas sitôt retiré que la belle, mettant à part les menaces de son époux, ne songea plus qu'au moyen d'obtenir de lui que ses sœurs seraient enlevées comme elle à la cime de ce rocher. Elle médita une harangue pour ce sujet, ne manqua pas de s'en servir, de bien prendre son temps et d'entremêler le tout de caresses. Faites votre compte qu'elle ne mit rien de ce qui pouvait contribuer à sa perte. Je voudrais m'être souvenu des termes de cette harangue. Vous y trouveriez une éloquence, non pas véritablement d'orateur, ni aussi d'une personne qui aurait fait toute sa vie qu'à écouter. La belle représenta, entre autres choses, que son bonheur serait imparfait tant qu'il demeurait inconnu. À quoi bon tant d'habits superbes? Il savait très bien qu'elle avait de quoi s'en passer. S'il avait cru à propos de lui en faire un présent, ce devait être plutôt pour la montrer que pour le besoin. Et pourquoi les raretés de ce séjour, si on ne lui permettait pas de s'en faire honneur? Car à son égard, ce n'était plus rareté. Les mailles des parterres, celui des prés, celui des pierreries, commençaient à lui être égaux. Leur déférence ne dépendait plus que des yeux d'autrui. Il ne fallait pas blâmer une ambition dont elle avait pour exemple tout ce qu'il y a de plus grand au monde. Les rois se plaisent à étaler leurs richesses et à se montrer quelquefois avec l'éclat et la gloire dont ils jouissent. Il n'est pas jusqu'à Jupiter qu'il en fasse autant. Quant à elle, cela lui était interdit, bien qu'elle en eût plus besoin qu'aucun autre, car après les paroles de l'oracle, quelle croyance pouvait-on avoir de l'état de sa fortune? Point d'autre, sinon qu'elle vivait enfermée dans quelque repaire, où elle se nourrissait de la proie que lui apportait son mari, devenue compagne des ours. Pourvu qu'encore ce même mari eût attendu jusque-là à la dévorer, qu'il avait intérêt pour son propre honneur de détruire cette croyance et qu'elle lui en parlait beaucoup plus pour lui que pour elle, quoique, à dire la vérité, il lui fût fâcheux de passer pour un objet de pitié après avoir été un objet d'envie. Et que savait-elle si ses parents n'en étaient point morts ou n'en mourraient point de douleur? Si ses sœurs l'aimaient, pourquoi leur laisser ce déplaisir? Et s'ils avaient d'autres sentiments, y avait-il un meilleur moyen de les punir que de les rendre témoins de sa gloire? C'est en substance ce que dit Psyché. Son époux lui repartit. Voilà les meilleures raisons du monde, mais ne me persuaderait pas s'il m'était libre d'y résister. Vous êtes tombé justement dans les trois défauts qui ont le plus accoutumé de nuire aux personnes de votre sexe, la curiosité, la vanité et le trop d'esprit. Je ne réponds pas à vos arguments, ils sont trop subtils. Et puisque vous voulez votre perte et que le destin le veut aussi, je vais y mettre ordre et commander aux zéphyrs de vous apporter vos sœurs. Plutôt au sort qu'il les laissa tomber en chemin. Non, non, reprit Psyché, quelque peu piqué. Puisque leur visite vous déplaît tant, ne vous en mettez plus en peine. Je vous aime trop pour vous vouloir obliger à ces complaisances. Vous m'aimez trop, repartit l'époux. Vous, Psyché, vous m'aimez trop? Et comment voulez-vous que je le croie? Sachez que les vrais amants ne se soucient que de leur amour. Que le monde parle, raisonne ou croit ce qu'il voudra, qu'on les plaigne, qu'on les envie, tout leur est égal, c'est-à-dire indifférent. Psyché l'assura qu'elle était dans ses sentiments, mais il fallait pardonner quelque chose à sa jeunesse, outre l'amitié qu'elle avait toujours eue pour ses sœurs. Donc elle insista davantage sur la liberté de les voir. En disant qu'elle ne la demandait pas, ses caresses la demandaient et l'obtinrent enfin. Son époux lui dit qu'elle possédât à son aise ses sœurs si chéries, et qu'afin de lui en donner le loisir, il demeurerait quelques jours sans la venir voir. Et sur ce que notre héroïne lui demanda s'il trouverait bon qu'elle les régalât de quelques présents, non, seulement elle, lui dit l'époux, mais leur famille, leur parenté, divertissez-les comme il vous plaira. Donnez-leur diamants et perles, donnez-leur tout, puisque tout vous appartient. C'est assez pour moi que vous vous gardiez de les croire. Psyché le promit et ne le tint pas. Le monstre partit et quitta sa femme plus matin que de coutume. Si bien qu'ayant encore beaucoup de chemin à faire jusqu'à l'aurore, notre héroïne en acheva une partie en rêvant à la visite qu'elle était prête de recevoir, et une autre partie en dormant. Et à son lever, elle fut tout étonnée que les nymphes lui amenèrent ses sœurs. La joie de Psyché ne fut pas moindre que sa surprise. Elle en donna 1000 marques, 1000 baisers, que ses sœurs reçurent au moins mal qu'il leur fut possible, et avec toute la dissimulation dont elles se trouvèrent capables. Déjà l'envie s'était emparée du cœur de ces deux personnes. Comment on les avait fait attendre que leur sœur fût éveillée? Mais était-elle d'un autre sang? Avait-elle plus de mérite que ses aînés? Leur cadette était une déesse et elle de chétive reine. La moindre chambre de ce palais valait 10 royaumes comme ceux de leur mari. Passe encore pour des richesses, mais de la divinité, oh, c'était trop. Et quoi? Les mortels n'étaient pas dignes de la servir? On voyait une douzaine de nymphes à l'entour d'une toilette, à l'entour d'un brodequin. Mais quel brodequin, équivalait autant que tout ce qu'elles avaient coûté en habits depuis qu'elles étaient au monde. C'est ce qui roulait au cœur de ces femmes, ou pour mieux dire de ces furies. Je ne devrais plus les appeler autrement. Cette première entrevue se passa pourtant comme il faut, grâce à la franchise de Psyché et à la dissimulation de ses sœurs. Leur cadette ne s'habilla qu'à demi, tant il tardait à la belle de leur montrer sa béatitude. Elle commença par le point le plus important, c'est-à-dire par les habits et par l'attirail que le sexe traîne après lui. Il était rangé dans des magasins dont à peine on voyait le bout. Vous savez que cet attirail est une chose infinie. Là, se rencontrait avec abondance ce qui contribue non seulement à la propreté, mais à la délicatesse. Équipage de jour et de nuit, vases et baignoires d'or ciselé, instruments du luxe, laboratoire non pour les phares, de quoi eussent-ils servi à Psyché, puisque l'usage en était alors inconnu. L'artifice et le mensonge ne régnaient pas comme ils l'ont en ce siècle-ci. On n'avait point encore vu de ces femmes qui ont trouvé le secret de devenir vieilles à 20 ans et de paraître jeunes à 60, et qui, moyennant 3 ou 4 boîtes, l'une d'embonpoint, l'autre de fraîcheur et la troisième de vermillon, font subsister leur charme comme elles peuvent. Certainement, l'amour leur est obligé de la peine qu'elles se donnent. Les laboratoires dont il s'agit n'étaient donc que pour les parfums. Mais il y en avait en eau, en essence, en poudre, en pastille, et en 1000 espèces dont je ne sais pas les noms, et qui n'en eurent possible jamais. Quand tout l'empire de Flore, avec les senteurs comme celui-là, deux Arabies et les lieux où naît le baume soient distillés, on n'en ferait pas un assortiment. Et dans un autre endroit étaient des piles de joyaux, ornements et chaînes, de pierreries, bracelets, colliers et autres machines qui se fabriquent à Cythère. On étala les filets de perles, on déploya les habits chamarrés de diamants, il y avait de quoi armer 1 million de belles de toute espèce. Non que Psyché ne se pût passer de ces choses, comme je l'ai déjà dit, elle n'était pas de ces conquérantes à qui il faut un peu d'aide, mais pour la grandeur et pour la forme, son mari le voulait ainsi. Ses sœurs soupiraient à la vue de ces objets. C'était autant de serpents qui leur rongeaient l'âme. Au sortir de cet arsenal, elles furent menées dans les chambres, puis dans les jardins, et partout elles avalaient un nouveau poison. Une des choses qui leur causa le plus de dépit fut qu'en leur présence, notre héroïne ordonna aux Zéphyrs de redoubler la fraîcheur ordinaire de ce séjour, de pénétrer jusqu'au fond des bois, d'avertir les rossignols qu'ils se tinssent prêts et que ses sœurs se promèneraient sur le soir en un tel endroit. Ben, il ne lui reste, se dirent les sœurs à l'oreille, que de commander aux saisons et aux éléments. Cependant, les nymphes n'étaient pas inutiles. Elles préparaient les autres plaisirs, chacun selon son office. Celles-là les collations, celles-ci la symphonie, d'autres les divertissements de théâtre. Psyché trouva bon que ces derniers missent son aventure en comédie. On y joua les plus considérables de ses amants, à l'exception du mari, qui ne parut point sur la scène. Les nymphes étaient trop bien avertis pour le donner à connaître. Mais, comme il fallait une conclusion à la pièce, et que cette conclusion ne pouvait être autre qu'un mariage, on fit épouser la belle par ambassadeur. Et ces ambassadeurs furent les jeux et les ris, mais on ne nomma point le mari. Ce fut le premier sujet qu'eurent les deux sœurs de douter des charmes de cet époux. Elle s'était malicieusement informée de ses qualités, s'imaginant que ce serait un vieux roi qui, ne pouvant mieux, amusait sa femme avec des bijoux. Mais Psyché leur en avait dit des nouvelles merveilles, qu'il n'était guère plus âgé que le plus jeune d'entre elles deux, qu'il avait la mine d'un Mars et pourtant beaucoup de douceur en son procédé, les traits du visage agréables, galants surtout, elles en seraient juges elles-mêmes. Non, de ce voyage il était absent, les affaires de son état le retenaient en une province dont elle avait oublié le nom. Au reste, qu'elles se gardassent bien d'interpréter l'oracle à la lettre. Ses qualités d'incendiaire et d'empoisonneur n'étaient autre chose qu'une énigme qu'elle leur expliquerait quelques jours, quand les affaires de son époux le lui permettraient. Les deux sœurs écoutaient ces choses avec un chagrin qui allait jusqu'au désespoir, Il fallut pourtant se contraindre pour leur honneur et aussi pour se conserver quelques créances en l'esprit de leur cadette. Cela leur était nécessaire dans le dessein qu'elles avaient. Les maudites femmes s'étaient proposées de tenter toutes sortes de moyens pour engager leur sœur à se perdre, soit en lui donnant de mauvaises impressions de son mari, soit en renouvelant dans son âme le souvenir d'un de ses amants. 8 jours se passèrent en divertissements continuels, à toujours changer. Nos envieux se gardaient bien de demander 2 fois une même chose. C'eût été faire plaisir à leur sœur qui, de son côté, les accablait de caresses. Moins elles avaient lieu de s'ennuyer, plus elles s'ennuyaient. Elles auraient pris congé dès le second jour sans la curiosité de voir ce mari qu'elles ne croyaient ni si beau ni si aimable que disait Psyché. Beaucoup de raisons le leur faisaient juger de la sorte. Premièrement, les paroles de l'oracle. Cette prétendue absence qui se rencontrait justement dans le temps de leur visite. Cette province dont Psyché avait oublié le nom. L'embarras où elle était en parlant de son mari. Elle n'en parlait qu'en hésitant, étant trop bien née et trop jeune pour pouvoir mentir avec assurance. Et ses sœurs faisaient leur profit de tout. L'envie leur ouvrait les yeux. C'est un démon qui ne laisse rien échapper et qui tire conséquence de toute chose, aussi bien que la jalousie. Au bout des 8 jours, Psyché congédia ses aînés avec force, don et prière de revenir, qu'on ne les ferait plus attendre comme on avait fait, qu'elle tâcherait d'obtenir de son mari que les dragons fussent enchaînés, et qu'aussitôt qu'elle serait arrivée au pied du rocher, on les enlèverait au sommet, soit le zéphyr en personne, soit son haleine. Elle n'aurait qu'à s'abandonner dans les airs. Les présents que leur fut Psyché furent des essences et des pierreries, force raretés à leurs maris, toutes sortes de jouets à leurs enfants. Quant aux personnes dont la belle tenait le jour, 2 fioles d'un élixir capable de rajeunir la vieillesse même. Les 2 sœurs parties et le mari revenu, Psyché lui conta tout ce qui s'était passé et le reçut avec les caresses que l'absence a coutume de produire entre nouveaux mariés, si bien que le monstre, ne trouvant point l'amour de sa femme diminué, ni sa curiosité accrue, se mit en esprit qu'en vain il craignait ses sœurs et se laissa tellement persuader qu'il agréa leur visite et donna les mains à tout ce que voulut sa femme sur ce sujet.